France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013. 13 militaires français de la force Barkhane ont été tués avant-hier dans la collision de deux hélicoptères. C'était lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Parmi les 13 victimes, 7 appartenaient au régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Plusieurs centaines de personnes s'y sont réunies hier soir. Une cérémonie d'hommage national aura par ailleurs lieu dans les prochains jours aux Invalides. La ministre des Armées, Florence Parly, se rendra prochainement au Mali. Sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Édouard Philippe a tenu hier à saluer ces héros tombés pour le pays. À qui, écrit-il, nous devons toute notre infinie gratitude. Près de 3 semaines après l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris, Adèle Haenel porte plainte contre Christophe Ruggia. L'actrice accuse le réalisateur d'attouchement et de harcèlement sexuel lorsqu'elle était mineure. Dans un premier temps, elle avait refusé de porter plainte, mais ses avocats expliquent qu'Adèle Haenel considère maintenant qu'il est de sa responsabilité de personnalité publique d'y prendre part. Le gouvernement veut se montrer offensif sur la réforme des retraites. Le Premier ministre Édouard Philippe a demandé hier aux parlementaires de la majorité d'assumer cette réforme. Il avait reçu pendant 2 jours des organisations syndicales et patronales, un peu moins de 10 jours avant la journée de grève du 5 décembre. Le gouvernement qui sera interpellé aujourd'hui par les agriculteurs. 1 millier de tracteurs devraient bloquer ce matin les principaux axes routiers de Paris. Des tracteurs venus des Hauts-de-France, de Normandie ou encore de la Bourgogne-Franche-Comté. Les revendications de ces agriculteurs sont nombreuses. Difficultés financières, dénigrement de la société, CETA ou encore accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Dans l'actualité ce mercredi également, l'Albanie toujours, où au moins 21 personnes sont mortes lors d'un séisme hier matin. Une secousse sans précédent depuis une trentaine d'années dans le pays. À Malte, 3 hauts responsables ont quitté leurs fonctions au gouvernement. Cela fait suite au scandale du meurtre de la journaliste Daphne Caruana il y a 2 ans. Elle travaillait sur des soupçons de corruption. L'enquête progresse et ébranle donc le pouvoir maltais. Et puis notons que la Commission européenne devrait être mise sur les rails aujourd'hui par le Parlement européen. Réunis à Strasbourg, les eurodéputés doivent valider, avec 1 mois de retard, l'équipe proposée par l'Allemande Ursula von der Leyen.
France Culture présente l'exposition « Des villes qui mangent ». Comment les villes se sont construites en prenant en compte l'alimentation des hommes? Que veut dire aujourd'hui « manger en ville » Quelles sont les initiatives actuelles? Cuisine partagée, jardin en ville, compostage, îlots de fraîcheur, biodiversité. L'exposition propose de collecter les idées et les projets pour imaginer la ville de demain. Des villes qui mangent, du 28 novembre au 21 mars, à la Bibliothèque municipale de Lyon-Lapardieu. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture à 6h03. Nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, l'actualité de la pop culture, très tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast, disponible sur l'application de Radio France par exemple, ou encore en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Corinne Amar et Cyril Marchand à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation avec ce matin la prise de son Cédric Chatelus. Tous les mercredis, c'est l'actu ciné au programme du Réveil Culturel et aujourd'hui on va parler d'un premier long métrage réalisé par Anissa Bonnefond, un étonnant, beau et bouleversant objet filmique du cinéma du réel. C'est en fait un documentaire sur Olivier Rousteing. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Rousteing, mais c'est une star absolue dans le milieu de la mode, un des directeurs artistiques les plus en vogue dans le monde, qui a été propulsé à l'âge de 25 ans à la tête de la maison Balmain. L'homme qui a permis donc à la marque de revenir dans la cour des grands. Mais le film d'Anissa Bonnefond ne raconte pas l'ascension d'une star dans le milieu de la haute couture, comme pouvait le laisser croire le titre du documentaire « Wonder Boy ». Mieux, c'est un film qui éclaire l'autre vie d'Olivier Rousteing, loin des podiums des défilés de mode, quand il est seul, dans le silence, dans la solitude, rongé par l'obsession de retrouver ses parents biologiques, car Olivier Rousteing est né sous X. Et le film d'Anissa Bonnefond filme l'enquête d'Olivier Rousteing pour retrouver ses parents biologiques, pour savoir pourquoi ils l'ont abandonné à sa naissance. C'est tout à la fois passionnant, digne et poignant. Anissa Bonnefond, la réalisatrice, et Olivier Rousteing sont les invités du Réveil culturel ce matin.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Je me sens pas libéré. Encore. Je me regardais dans une glace en me disant que je viens de ce continent-là, de tel pays. Mais j'ai pas de photo. Il y a quelque chose qui m'a touché aujourd'hui, qui m'a fait vachement plaisir, et c'est vraiment débile. C'est qu'elle me dit qu'elle était très très mince, et que finalement, malheureusement pour elle, le fait qu'elle soit jeune et qu'elle était mince pouvait pas évidemment me faire venir au monde. Mais c'est la première fois qu'on peut dire dans ma vie que je ressemble à quelqu'un. Je trouve ça beau, j'ai trouvé ça rassurant. Parce que le problème, c'est que je me suis jamais réellement senti humain finalement, parce que quand tu sais pas d'où tu viens, et que t'as l'impression d'avoir une chance incroyable, évidemment, d'avoir eu des parents incroyables, tu te places jamais comme un humain. T'as toujours besoin de prétendre à faire plus que les autres, parce que tu sais que t'es pas quelqu'un de normal, d'une certaine manière. J'avais tellement peur que mes parents me ramènent à l'orphelinat quand j'étais gamin, parce que j'étais pas le meilleur partout, que j'étais pas assez bon. J'avais tellement peur qu'ils aient pas fait le bon choix, que j'ai toujours voulu être un espèce de surhumain pour leur montrer que, finalement, ce qu'ils ont choisi, c'était le bon choix. J'avais peur de revenir. J'avais peur de pas être à la hauteur.
Voilà, cette confession d'Olivier Rousteing est un extrait de votre film, Anissa Bonnefond. Bonjour.
Bonjour.
Le titre du film, c'est Wonder Boy. Il sort aujourd'hui. Et bonjour, Olivier Rousteing.
Bonjour.
Vous avez suivi Olivier Rousteing dans sa quête des origines, c'est bien l'expression qui convient, hein. C'est-à-dire que vous l'avez filmé dès le début du processus, de ce processus qui s'est donné pour retrouver ses parents biologiques. C'est donc tout le sujet du film qui suit toutes les étapes d'abord de sa demande, l'attente des résultats, les rebondissements. La dramaturgie du film repose sur la question « va-t-il, oui ou non, retrouver ses parents biologiques ?» Et toute cette quête est filmée comme si la caméra n'avait jamais quitté Olivier Rousteing durant cette année et même plus, hein, parce que vous avez tourné pendant 18 mois d'enquête. Alors, est-ce que c'est le film qui a précipité cette envie chez vous, Olivier Rousteing, ou c'est le contraire, c'est cette envie, cette quête qui a fait que vous avez contacté Anissa Bonnefond pour qu'il y ait un témoignage, qu'il y ait une trace de cette enquête, de cette histoire?
Je pense en fait que c'est les deux. C'est que j'avais essayé de faire cette quête à 16 ans. J'étais pas capable d'aller jusqu'au bout parce que j'avais un nom usuel. C'est-à-dire qu'en France, quand on est sans parents, on nous donne à l'orphelinat un nom et un prénom qui s'appelle un nom usuel, donc qui n'est pas un nom qui a été choisi par les parents. Donc quand je suis arrivé à 16 ans à cet âge-là, on m'a dit mais c'était ton prénom, c'était ni Olivier, ton nom c'était pas Rousteing, c'était un autre nom et prénom. Donc à 16 ans, j'ai abandonné l'idée de continuer à poursuivre la recherche et je dois dire que quand Anissa, dans ma trentaine, m'a proposé donc de faire ce documentaire, j'avais toujours eu envie de faire cette quête, mais d'avoir des caméras pendant presque 2 ans m'ont aussi, entre guillemets, poussé à ne jamais abandonner, en fait. Ces caméras-là m'ont donné la force de me dire « je n'abandonnerai pas ».
Et Anissa Bonnefond, vous, ce qui vous intéressait, c'était faire un film sur cette quête d'identité d'Olivier Rousteing, ou vous vouliez faire un film sur Olivier Rousteing, et comme cela fait partie de sa vie, vous vous êtes dit « on va aussi intégrer cette recherche des origines ».
Alors moi, j'ai été très intéressée par la quête dès le départ, mais aussi à travers sa vie. Je trouvais ça extrêmement intéressant, les deux vies d'Olivier, c'est-à-dire ce jeune homme qui a un succès fulgurant dans la mode, et à côté de ça, cette faille, en fait, montrer qu'il était, justement, on le voit toujours comme un surhomme, et montrer que derrière tout ça, il y avait aussi un enfant avec ses blessures, et j'étais intéressée d'aller rechercher, ses origines. Cette dualité qui m'a intéressée.
Et pourquoi partager cette expérience si intime avec les autres, Olivier Rousteing ?
C'était un choix complètement délibéré, parce que je voulais aussi montrer l'autre facette du succès, de la notoriété que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens voient que c'est la mode, des robes, de la paillette, ce côté glamour. Mais j'avais aussi envie de montrer que cette force et cette notoriété que j'ai acquise, c'était aussi parce que j'ai des faiblesses et une fragilité qui est devenue ma force. Donc c'était un message d'espoir pour beaucoup d'enfants qui viennent d'orphelinat. C'était aussi
c'était à eux que vous pensiez quand vous avez décidé de montrer de parce que vous mettez à nu hein dans ce film.
Je pense que c'était un message d'espoir pour une génération entière qui peut souffrir de leurs blessures et leur dire voilà, c'est pas grave, allez de l'avant, faites de votre destin une force et à la fois c'était un message pour ma mère biologique pour lui dire voilà, je suis là.
C'est même une lettre adressée à cette femme, à cette jeune femme.
C'est un film maintenant. Si vous y pensez, c'est plus une lettre, c'est un film. Voilà.
Ce film, est-ce que vous aviez votre mot à dire, Olivier Rousteing, ou c'est un pari que vous avez fait en disant « Je me laisse filmer par Anissa Bonnefond et advienne que pourra ».
Vous savez, quand on vous propose un documentaire, un film sur votre vie à 30 ans, c'est très atypique, donc il faut être honnête, le plus honnête et le plus authentique possible. Comme j'ai dit à Anissa, est-ce que t'es sûr que tu veux faire un film sur moi? Ben, généralement, un film sur des designers, sur des créateurs, c'est ou quand ils sont morts ou c'est en fin de carrière. Donc, je dis concrètement, c'est vraiment rare d'avoir un documentaire sur sa vie à 30 ans. Et Anissa m'a dit oui, j'assume, je vais à fond et je veux aussi le spécifier ça parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui font des documentaires en ayant déjà un script parce qu'une carrière, elle est scriptée finalement. Ils savent très bien ce qui s'est passé dans les 60 ou 80 ans qui ont précédé le designer. Là, pour le coup, moi, en fait, avec Anissa, on est allé à l'aventure. Et donc on savait pas ce qu'on allait trouver comme réponse. Donc le pacte qu'on a fait avec Anissa, c'est que moi j'étais le plus sincère et authentique possible, mais en aucun cas j'ai co-dirigé ce documentaire. Je me suis laissé porter par la vie et par les caméras d'Anissa.
Vous, le professionnel de la communication, de l'image, vous qui contrôlez si bien tout ce que vous faites en tant que créateur de mode.
Ouais, ça fait du bien parfois d'être incontrôlé. Hein. Ouais.
Anissa Bonnefond. Comment s'est déroulé ce tournage? Parce que vous allez filmer d'abord une attente, puis vous allez filmer une enquête, puis vous allez aussi filmer les réactions d'Olivier Rousteing quand il va apprendre des choses qui sont assez terrifiantes parfois.
Oui, bien sûr. Mais nous, on a essayé de faire ça de la manière la plus organique possible. C'est-à-dire que l'idée, c'était pour être honnête et juste et vraiment montrer Olivier le plus honnêtement possible. Il fallait laisser les choses se faire petit à petit et qu'on a appris à se connaître sur ce tournage. Moi, je connaissais pas Olivier, il me connaissait pas. Donc, il fallait que la confiance grandisse. Et je trouve, et c'est ce que j'ai voulu faire aussi au montage, que les spectateurs découvrent en même temps que moi, j'ai découvert Olivier. Donc, en fait, toutes les émotions ont grandi aussi. À travers
mais
cette
comment
recherche.
Les montrer au cinéma? Quel traitement leur donner? Parce que ce qui est frappant dans ce film Wonder Boy, donc qui sort aujourd'hui, vous venez de le dire, Anissa Bonnefond, vous avez bien sûr joué sur une opposition. Rousteing, la star de la mode, des Fashion Week, des réseaux sociaux, le petit prodige de la mode salué par le monde, avec toujours plein de monde autour de lui. Vous allez le filmer aussi très seul, c'est-à-dire quelqu'un qui va naviguer seul dans les méandres de l'administration pour obtenir le droit de consulter le maigre dossier constitué à sa naissance, lui, l'enfant né sous X. Donc, effectivement, vous jouez avec ce contraste, mais vous vous êtes aussi posé les questions, comment filmer des moments d'intense émotion?
Oui, bien sûr, mais je pense que c'est ce que je vous dis. J'ai essayé de suivre en fait la quête et les émotions d'Olivier. J'ai jamais essayé de pousser quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on est parti dans cette recherche. On a évidemment eu des moments d'attente. Et puis quand on est parti à la DAS pour ouvrir ce dossier, le rapport en fait du film a changé. C'est-à-dire que moi, Olivier, à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un qui avait vraiment laissé tomber tous les masques. C'est-à-dire qu'il est la découverte de ce dossier. M'a vraiment bouleversée comme il a été bouleversé. Je m'attendais pas à ce qu'Olivier puisse lâcher prise comme ça, parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup en contrôle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais une vraie responsabilité, parce que ok, là on filmait, mais qu'à un moment le film allait s'arrêter et qu'Olivier, tout ça, allait garder en fait tout ce qu'il a découvert dans sa vie. Et donc on a commencé à se poser des questions. Moi, j'ai toujours, à partir de ce moment-là, j'ai eu un rapport double, c'est-à-dire la réalisatrice qui avait envie de finir son film. Et donc essayer de continuer la recherche, avancer pour que la narration avance et que le film soit le plus fort possible. Et à côté de ça, j'avais aussi maintenant ce rapport très personnel et intime avec Olivier que j'ai appris à connaître et à aimer. Et du coup, voilà, à lui dire, écoute, réfléchis bien avant de prendre des décisions si on continue ou pas. Parce que toi, tu vas devoir vivre avec ça pendant le reste de ta vie.
Mais vous êtes posé la question, comment filmer, où mettre la caméra? Parce que la force de Wonder Boy, c'est qu'à aucun moment on est dans une situation de voyeur. On est vraiment spectateur. Mmh. Et spectateur avec l'intime conviction que les auteurs de ce film voulaient bien partager cette expérience douloureuse avec nous.
Oui, bien sûr. Bah oui, moi, pour moi, il était très important dès le départ d'être le plus proche d'Olivier. Donc, on voit beaucoup de gros plans. J'adore, je trouve ça extrêmement beau. Et puis surtout, ça, moi, je voulais être très proche d'Olivier pour qu'on rentre dans son intimité, qu'on soit pas dans quelque chose, justement, un tableau où on montre s'arrêter beaucoup plus voyeuriste, d'être beaucoup plus dans le large et tout ça. L'idée, c'était de, voilà, que la caméra, évidemment, épouse le propos et donc d'être au plus proche et de son intimité. Oui, bien sûr, je me suis posé beaucoup de questions, même par rapport au matériel choisi, par rapport à si je voulais des interviews ou pas. Très vite, il était clair que j'en voulais pas. Laisser les personnages secondaires rentrer dans l'intrigue comme dans une fiction, parce qu'il n'y a pas besoin de tout expliquer. En fait, chacun trouve sa place.
Filmer le milieu de la mode sans que ce milieu-là ne phagocyte l'histoire personnelle d'Olivier Rousteing, ça aussi, c'est plutôt réussi.
Mais parce que je pense que j'ai voulu aussi le milieu de la mode, je l'ai filmé de manière j'ai essayé de me mettre aussi dans la tête d'Olivier, c'est-à-dire que on voit au début c'est assez je monte pour comprendre l'arène dans laquelle Olivier vit, travaille, son monte le faste, enfin tout ça, et puis petit à petit quand on avance dans le film et qu'on se rapproche d'Olivier, même la mode, je la filme de manière beaucoup plus intime, comme si on était dans son esprit, dans sa création, dans sa créativité. L'idée c'était pas juste de montrer des fashion shows, la beauté de son travail, il fallait qu'il y ait en plus à ça.
Alors justement, c'est la question que je voulais aussi vous poser. Est-ce que vous vous êtes inspiré du travail artistique du créateur Olivier Rousteing? Je m'explique, votre film, comme Olivier Rousteing a été le premier à utiliser la culture pop, c'est-à-dire le R&B, le rap, et l'introduire dans ses défilés de mode, l'introduire dans ses créations, oser imposer Rihanna par exemple comme égérie de sa maison de mode. Est-ce que vous-même vous avez fait la même chose, c'est-à-dire vous avez pris quelque chose de tout à fait populaire, pour aller très vite, la télé-réalité, et vous avez transformé ce matériau en quelque chose qui s'adapte justement à de l'art, au cinéma?
Alors pas du tout, je crois pas. C'est pas du tout, c'est pas du tout ma référence. Déjà, je regarde pas la télé. Enfin, vraiment, c'est pas du tout mes références. Non, moi, je crois que je me suis surtout inspirée d'Olivier. C'est-à-dire qu'une fois encore, moi, j'avais vraiment mon objectif. Ce que je voulais dire, c'était voilà, être proche de lui. Donc, la pop culture me vient d'Olivier. Mis à part nos goûts musicaux, parfois qui peuvent être partagés pour les années 80 et tout, mais vraiment, mon inspiration, c'est lui.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Olivier Rousteing, l'enfant prodige de la mode, à la recherche de ses parents biologiques, c'est la trame du film, un premier long métrage d'Anissa Bonnefond qui sort aujourd'hui. Wonder Boy, on en parle dans le réveil culturel, on écoute un autre extrait de ce film.
Fucking rock and go!
j'ai commencé il y a 7 ans, les gens applaudissaient. Aujourd'hui, les gens en fait n'applaudissent plus parce que l'applaudissement devient un post, un Instagram, un like. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a 7 ans, c'était le nombre d'applaudissements et le bruit que la salle faisait. Et aujourd'hui, c'est plus le nombre de flashs que la salle fait. Et aujourd'hui, j'ai ressenti les flashs. Et c'était beau. En fait, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai des interviews où on me disait « Mais pourquoi toujours ce côté hôtel de ville, Paris, opéra ?» Et en fait, c'est parce que finalement, j'ai toujours voulu prétendre ma nationalité, mon passeport, entre guillemets, parce que j'avais peur de ne pas être assez français. Mais finalement, aujourd'hui, je suis français.
Vous avez des phrases excellentes, Olivier Rousteing. Vous les préparez quand vous préparez vos vêtements? Parce que dans ce film Wonder Boy, il y a quand même quelques répliques qui restent. Hein. Plus je sais où je vais, plus j'ai besoin de savoir d'où je viens, dites-vous. Quand tes parents ne te veulent pas, tu te demandes pourquoi tu es là. Tant que je ne sais pas qui je suis, je ne pourrai pas m'aimer. Ça, vous le dites. C'est quoi? Ce sont des phrases que vous avez travaillées avec d'autres personnes la veille, ou ce sont des phrases qui sortaient au fur et à mesure que Anissa Bonnefond vous filmait pour ce film?
Enfin, je peux comprendre la question, mais c'était complètement spontané. C'était le moment, c'était l'émotion. Quand je dis, je sais pas pourquoi je suis là, si mes parents me veulent pas, c'est une réalité.
Oui, sauf que c'est toujours très bien dit. C'est la bonne formule, quoi.
Parce que ça rejoint exactement la trame de mon éducation et de ma vie, qui a toujours été d'exceller dans, aussi bien dans ma rhétorique que dans ma façon de travailler, que dans ma, j'ai une certaine discipline avec moi-même dans ma vie de tous les jours, comme avec mes phrases. Donc, je le calcule pas, en fait. Je suis devenu, en fait, une espèce de, je vais pas dire de machine, parce que c'est pas ça l'idée, mais je me suis imposé d'exceller même dans ma façon de parler, mais pas par rapport au film, mais depuis toujours. Quand je dis mon rêve, c'est tout, enfin, j'ai voulu montrer que j'étais à l'hôtel de ville pour montrer ma nationalité, mon passeport. J'ai aussi voulu exceller dans ma façon de parler pour pas qu'on me parque comme c'est un garçon qui vient de l'orphelinat, il est pas capable d'exceller un jour. Donc finalement, je me suis toujours donné une discipline depuis que je suis petit, pour donner envie à mes parents adoptifs de pas me ramener, pour montrer à ma mère biologique qu'elle a fait le bon choix, et pour montrer finalement au monde entier que finalement, comme vous dites, si je suis l'enfant prodige, c'est pour une raison.
Quand vous dites que j'ai eu peur que mes parents adoptifs me ramènent à l'orphelinat, ça a duré combien de temps, cette peur?
Je pense qu'elle est encore là aujourd'hui, finalement, bizarrement. C'est quelque chose qui vous hante, pas forcément quand on est petit, on met son pyjama le soir quand on rentre d'un dîner de famille, parce qu'on se dit comme ça, si on est en pyjama, ils vont pas m'abandonner, en fait, finalement, ils vont me ramener dans mon lit. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, je vais pas dire la même chose, mais j'ai envie de leur montrer qu'ils ont fait le bon choix et que ils ont pris la bonne personne qui a réussi à avoir ce succès et dont ils peuvent être fiers.
Donc, pourquoi vous avez choisi la création dans la mode, Olivier Rousteing?
Parce que finalement, la mode, on peut créer un univers, on peut créer une identité. Quand on n'a pas son identité, s'habiller, c'est comme créer un nouveau personnage.
Et vous aviez cette envie depuis longtemps, depuis très jeune, d'être créateur, couturier?
Non, mais par contre, depuis très jeune, je me crée des personnages. J'étais quelqu'un qui adorait me masquer, finalement, pour prétendre à une vie que j'avais pas forcément ou autre. Donc j'ai choisi la mode parce que c'est le métier qui peut créer des personnages, finalement.
Vous avez été abreuvé de fiction, de romans, de films dans votre jeunesse, adolescence?
Bien sûr, j'adorais la mode, j'adorais la beauté, j'adorais le glamour, j'adorais finalement l'image qui fait rêver, en fait. Et en fait, c'est ce que je dis, c'est quand on rêve pas soi-même, il faut faire rêver les autres.
Et puis enfin, alors cette question, je vous la pose à vous, mais aussi à Anissa Bonnefond. Ce qui vous rend aussi très particulier et très original, Olivier Rousteing, c'est que vous êtes métisse, et le premier métisse dans le monde très blanc de la mode parisienne. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette différence que vous avez eu envie de connaître votre histoire, de connaître l'histoire de vos parents biologiques? Parce qu'on vous l'a fait plutôt sentir ou ressentir dans ce milieu-là.
Bien sûr, la mode est un monde d'avant-garde, mais à la fois un monde très conservateur. Donc, comme vous le dites, je suis le premier métis dans une maison de mode de luxe française. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour parler à ce qu'on appelle la nouvelle France, une France qui représente la vie d'aujourd'hui et les générations d'aujourd'hui, les générations futures. Je peux dire que ça a été mon combat depuis le début, de vouloir ouvrir les portes à un monde qui était extrêmement exclusif et qui laissait pas forcément tout le monde rentrer comme par rapport à ma couleur.
Anissa Bonnefond, vous avez aussi traité ça, cette le fait qu'Olivier Rousteing se démarque de par la couleur de sa peau du reste du monde de la mode, de la haute couture, des grands couturiers français. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a augmenté chez lui son envie de savoir d'où il vient?
Je pense que quand on est noir et qu'on a des parents adoptifs blancs et qu'on donc ne ressemble à personne, évidemment qu'il y a encore certainement plus ce besoin d'aller comprendre son histoire et ses origines, surtout comprendre d'où l'on vient. Donc oui, j'ai trouvé ça extrêmement beau et touchant à raconter. Après, c'est pas ça qui m'a fait partir du tout, non, sur cette histoire. C'était pas une couleur de peau. Mais après, par rapport à Olivier, oui, je pense que ça, c'est difficile de pas savoir à qui on ressemble.
Il y a une véritable dramaturgie dans votre film, comme dans n'importe quel film. Sauf que là, ça touche à l'intime. Comment vous vous êtes placée vis-à-vis de cette problématique, Anissa Bonnefond?
Ça s'est fait avec le temps. On a commencé surtout par filmer le travail. Moi, je voulais qu'Olivier soit à l'aise. Et donc, au début, il fallait rentrer gentiment dans cette aventure. Et donc, voilà, on a commencé à se découvrir dans des scènes plus moins difficiles, je dirais. Et donc, petit à petit, on est devenu quand même très proches. On a beaucoup parlé, beaucoup pendant des heures.
Mais vous saviez au début, quand vous avez commencé ce film, Wonder Boy, qui sort aujourd'hui et qui retient notre attention de spectateurs parce qu'il y a une dramaturgie, hein, c'est-à-dire d'emblée, on sait qu'Olivier Rousteing va à la recherche de ses parents biologiques, et toute la dramaturgie, c'est est-ce qu'il va les retrouver? Est-ce qu'il va être plutôt déçu, plutôt content ou pas? J'en dirai pas plus, parce que la fin est tout à la fois une fin heureuse, une fin malheureuse, une fin ouverte. J'en dis pas plus, mais il faut surtout pas barrer une des trois mentions, parce que vous réussissez ce pari, justement.
Mais parce qu'avec le documentaire, en tout cas avec une recherche comme ça, il était impossible de savoir où est-ce qu'on allait terminer. On aurait pu aussi ne rien trouver dans le dossier Olivier. Il est né sous X, donc dans les années 80, il est né sous X. C'est plus la même loi d'aujourd'hui. Potentiellement, on aurait eu accès à rien. On aurait dû ne rien trouver, donc on a une très belle étoile. Donc oui, cette fin ouverte, c'est parce que petit à petit, avec le déroulé de notre histoire et de ce qu'on découvrait chaque jour un peu plus, l'histoire s'est créée.
Quand je vous ai dit que dans votre film de cinéma, il y a des références à la télé-réalité, vous n'avez pas du tout tilté, Anissa Bonnefond. Quelles sont donc, vous, plutôt vos références?
Oui, moi, alors, je viens de cette génération de télé-réalité, mais c'était pas mes références. Moi, j'ai toujours adoré le cinéma du réel, mais plutôt dans les années 50, avec des réalisateurs comme des Jonas Mercas, où je trouve que d'un rien, ils en font une histoire. Ça me touche. Donc, certainement, c'est ça qui m'a influencée, ou en tout cas, nourrie, plus que la télé-réalité. Après, la télé-réalité, évidemment, comme n'importe quelle personne de ma génération, je vois très bien ce que c'est. Peut-être qu'inconsciemment, c'est venu, mais c'était pas là. Mon point de départ était plus, dans ce cinéma-là.
Comment on se sent quand on a terminé ce genre de quête et que le film est prêt, puisqu'il sort aujourd'hui, qui va être vu par d'autres personnes? Olivier Rousteing, vous vous sentez comment?
C'est une très belle question. On se sent à la fois soulagé parce que c'est une aventure qui se termine, à la fois vidé parce qu'il faut se rendre compte que quand on se réveille avec les caméras le matin, avec des gens tous les jours, en fait, finalement, j'étais moins seul. Donc, c'était une parenthèse de ma vie qui m'a fait découvrir beaucoup de choses sur moi-même. Ouais, j'ai peut-être un peu peur que ça s'arrête finalement.
C'est ce que vous dites, hein. À un certain moment dans le film, vous dites « j'ai peur que ce tournage s'arrête, j'ai peur que cette quête s'arrête ». Et en fait, compte, cette peur recouvrait une autre peur, non?
Vous savez, c'est la peur d'être seul de nouveau, c'est la peur que ma mère biologique, par rapport à ce film-là, c'est ma peur de la réaction de mes parents adoptifs, de ma famille adoptive, C'est beaucoup de choses, en fait, finalement. C'est à la fois, ce que vous avez dit, c'est à la fois une très belle fin et à la fois, c'est à la fois parfois un peu triste.
Ouais, c'est poignant. Et on voit vos amis, enfin, on voit les gens avec qui vous passez vos journées, Olivier Rousteing. Ça fait partie aussi du film, du fait qu'on s'attache à ce film, la famille adoptive, les grands-parents, des moments très très forts avec les grands-parents, les gens avec qui vous travaillez, votre chauffeur, qui est aussi votre confident, Mohamed. Et on n'arrive pas à répondre finalement à la question. Est-ce que vous êtes heureux, Olivier Rousteing? Eh bien, c'est une réponse, on va dire.
Voilà. Je ne vais pas répondre.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Dans le genre, c'est vraiment pas le film qu'on croyait découvrir. C'est une très bonne surprise. Wonder Boy, le film d'Anissa Bonnefond avec Olivier Rousteing, sort aujourd'hui. Surtout, ne le ratez pas. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. On se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Il se présente comme anticollapsologue.
Sur France Culture, de nouveaux rendez-vous quotidiens consacrés à l'actualité de la vie des idées, de la culture, de l'histoire, de la philosophie, des sciences.
La trottinette électrique pouvait aussi sembler rapprocher en un élan l'insouciance des premiers moments à l'inquiétude de la fin des temps.
Des chroniques à écouter sur l'antenne et à retrouver sur notre site dans la rubrique Le Fil Culture, complétée par des décryptages, enquêtes et vidéos.
Le plus respecté des photographes n'a cessé de s'en prendre aux images.
L'actualité de la culture, des savoirs et des idées, à l'antenne et dans Le Fil Culture. Sur franceculture.fr. Un espace de création affranchi des codes, le dimanche sur France Culture, l'expérience, à prolonger sous tous les formats régulièrement en podcast original. Aurélie Charron.
On est dans les années 70 et c'est une plongée dans le premier des réseaux. Des milliers d'inconnus se parlent et se draguent grâce à une faille dans le système téléphonique des PTT. Remontons la mémoire du réseau.
Rencontre au troisième bip. Vivez l'expérience en podcast original sur franceculture.fr. À vos casques.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Anciens combattants, haut gradés de l'armée, élus mais aussi simples citoyens, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées hier soir à Pau pour rendre hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane, morts hier matin au Mali. Parmi eux, 7 militaires appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville. Devant l'hôtel de ville à Pau, devant les drapeaux en berne, les portraits de ces 7 victimes ont été accrochés. Le maire de la ville, François Bayrou, a appelé à une minute de silence avant que l'assistance n'entonne la Marseillaise hier soir. Une cérémonie d'hommage national aura lieu par ailleurs aux Invalides dans les prochains jours, après la mort donc de ces 13 militaires au Mali. Des mots fermes et un message clair. Édouard Philippe était hier soir devant les parlementaires à qui il a demandé une très grande détermination au sujet de la réforme des retraites. Nous avons un mandat là-dessus, a lancé le Premier ministre. À 10 jours d'une journée nationale de mobilisation, ce sera le 5 décembre prochain. Eux manifestent aujourd'hui et dès ce matin. Un millier d'agriculteurs doivent, sur leurs tracteurs, bloquer les accès à Paris. Selon la préfecture, 5 autoroutes seront occupées vers la porte Dauphine à l'ouest de la capitale ce matin. Tous devraient ensuite prendre la direction de l'avenue Foch où un rassemblement est organisé à partir de 10h. Quelques milliers d'Israéliens se sont rassemblés dans la rue hier pour afficher leur soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il fait face à une crise inédite depuis son arrivée au pouvoir en 2009, après avoir été inculpé la semaine dernière pour corruption, fraude et abus de confiance. Organisée sous le nom « Stop au coup d'État », cette manifestation n'a toutefois pas réuni autant de participants que ne l'espéraient ses organisateurs. En Grande-Bretagne, le chef des travaillistes, Jeremy Corbyn, se défend de tolérer l'antisémitisme. Il refuse toute excuse après une charge du grand rabbin du Royaume-Uni. Ce dernier lui reprochait en pleine campagne électorale son incapacité à éradiquer ce poison dans sa formation. Revenons à présent en France pour quelques mots de météo. Le temps ce mercredi sera pluvieux sur tout le pays, excepté sur les frontières du Sud et sur le Grand Est ce matin. Comptez 10 degrés à Strasbourg et à Lille, 11 à Paris, 12 degrés à Rennes, 15 degrés ce matin à Marseille.